Vous écoutez, on lit pour vous.
Ablefly, révolutionner le transport aérien pour les passagers à mobilité réduite. Un texte de Daphné Absi, paru le 15 janvier 2025 dans McGill.ca. Ablefly a pour mission de rendre les voyages aériens plus inclusifs et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Co-fondée par Sandra Gualtieri, la start-up développe le dispositif Ablefly Comfort, une solution ergonomique et personnalisable conçue pour améliorer la sécurité et le confort en vol. Quel est le produit d'Ablefly? En quoi s'aligne-t-il avec votre mission? Imaginez-vous dans un siège en classe économique. Maintenant, imaginez-vous comme une personne à mobilité réduite qui dépend d'un dispositif de soutien personnalisé. Dans ce siège d'avion, retenu uniquement par une ceinture, vous êtes incapable de vous maintenir droit ou de vous stabiliser, tout en affrontant des mouvements involontaires ou d'autres handicaps liés à la mobilité, à la flexibilité ou à la douleur. Imaginez à quel point cette expérience pourrait être inconfortable et angoissante. La mission d'Ablefly est de permettre à un plus grand nombre de personnes à mobilité réduite de voyager en avion, leur donnant ainsi accès au monde et à de nouvelles opportunités. Des études montrent que 40 % des personnes à mobilité réduite évitent les voyages aériens en raison de divers facteurs, notamment l'inconfort, les risques pour la santé et la peur de perdre ou d'endommager leur dispositif de mobilité. Ablefly développe le dispositif Ablefly Comfort, un système orthotique de positionnement personnalisé destiné à améliorer le confort et la sécurité des voyageurs à mobilité réduite en avion. Composé d'un siège ergonomique et malléable, de supports et de coussins personnalisables, de ceintures de sécurité et d'un harnais, ce dispositif intègre également une aide au transfert de siège et une fonctionnalité de chaise de transfert dans l'allée pour réduire les risques de blessures. Le dispositif Ablefly Comfort a démontré que, lorsqu'il est adapté aux besoins posturaux d'un utilisateur, il peut reproduire les caractéristiques de soutien et de soulagement de la pression d'un dispositif de mobilité personnalisé. Bien que des produits similaires existent pour les enfants, Ablefly croit que son dispositif sera le premier à répondre aux besoins des passagers adultes. Quelles étapes clés Ablefly a-t-elle franchies en 2024? En 2024, Ablefly a accompli plusieurs étapes importantes, notamment 1. Conception et test utilisateur d'un prototype de première génération basé sur des retours d'expérience et des discussions avec les régulateurs. 2. Évaluation de marché potentiel de 21,5 millions de personnes en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. 3. Planification de tests en conditions réelles avec une grande compagnie aérienne internationale. Ces réalisations ont révélé des défis inattendus, tels que la complexité des réglementations et l'absence de normes universelles pour les voyageurs à mobilité réduite. Cependant, le soutien de Transport Canada et d'autres entités réglementaires a renforcé leur démarche. Comment avez-vous garanti que votre produit répond efficacement aux besoins des voyageurs à mobilité réduite? Comment avez-vous intégré les retours des utilisateurs et des compagnies aériennes dans le développement de votre prototype? Nous avons mis en place un protocole de test rigoureux, approuvé par un comité indépendant d'éthique. Nous avons testé notre prototype de première génération dans une cabine simulée au centre Try Before You Fly de la Queen Elizabeth Foundation for Disabled People à Londres, au Royaume-Uni. Les retours que nous avons reçus ont orienté la conception de notre prototype de deuxième génération en cours de développement. L'étape suivante consiste à tester le dispositif lors d'un vol commercial, un processus que nous préparons en collaboration avec une grande compagnie aérienne internationale. Tout au long de ce processus, nous avons sollicité des retours d'organismes de réglementation sur l'évolution de nos conceptions. Cette approche, appelée « bac à sable réglementaire », nous permet de démontrer l'impact réel de notre produit sur le marché tout en restant sous supervision réglementaire. Quel rôle le mentorat et les ressources fournies par le Centre Dobson ont-ils joué dans votre croissance? Citation: En tant que nouvel entrepreneur avec une idée, je n'avais pas de véritable direction pour avancer. déclare Sandra Gualtieri, cofondatrice et PDG d'Ablefly. Le mentorat de Marcia Kilgore, une entrepreneure en Syrie qui reste une conseillère clé pour l'entreprise, a été essentiel. Elle a vu le potentiel de mon idée et m'a présenté les membres de l'équipe dirigeante qui ont été critiques pour notre succès, y compris notre PDG, notre directeur du design et notre directeur de la stratégie. Sans le programme de mentorat, mon idée serait restée en suspens. Fin de citation. Citation. Le financement fourni par la Coupe Dobson et les programmes d'accélérateur ont permis de financer le prototype, la demande de brevet et l'enregistrement de la marque, qui sont tous des éléments essentiels pour positionner Ablefly comme un véritable innovateur dans le secteur. Fin de citation. Sandra a également souligné le soutien continu de Transport Canada comme un facteur clé contribuant à la croissance d'Ablefly. Qu'avez-vous appris sur vous-même et sur votre entreprise au cours de votre parcours de fondatrice, notamment en ce qui concerne votre lien avec la communauté que vous servez? Citation, ellipse, dans ce secteur hautement réglementé, j'ai appris l'importance de la patience et de la persévérance. Fin de citation, affirme Sandra Gualtieri, cofondatrice et PDG. Citation, en tant que fondatrice ayant un handicap et développant un produit pour les personnes à mobilité réduite, j'ai une connexion directe avec notre clientèle. Cela construit de la crédibilité et de la confiance tout en me donnant une compréhension approfondie des besoins et des exigences pour ce produit. J'ai également constaté les opportunités disponibles pour les fondateurs handicapés, car cette communauté suscite de plus en plus d'intérêt de la part des sources de financement cherchant à étendre leur mandat en matière de diversité. Fin de citation. Quels objectifs espérez-vous atteindre en 2025? En 2025, les fondateurs d'Ablefly prévoient de consolider les bases solides établies en 2024. Les priorités incluent effectuer des tests rigoureux sur leur prototype de deuxième génération, mener des essais en vol sur des vols commerciaux. Les résultats de ces tests permettront de concevoir un prototype de troisième génération affiné pour la commercialisation. Ablefly prévoit de lancer ses ventes au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne dès que toutes les exigences réglementaires seront satisfaites. En parallèle, l'équipe se concentrera sur le développement de stratégies de marque et de marketing tout en recherchant un financement supplémentaire pour soutenir les prochaines étapes de leur lancement et de leur croissance. C'était Ablefly, révolutionner le transport aérien pour les passagers à mobilité réduite. Un texte de Daphné Avsi, paru le 15 janvier 2025 dans McGill.ca.
La santé mentale des ados décline, un texte de Marie-Ève Maurras, paru le 27 novembre 2024 dans La Presse. Entre 2010-2011 et 2022-2023, il y a eu une augmentation significative des troubles mentaux confirmés par un médecin chez les jeunes du secondaire au Québec. Un jeune sur cinq a un diagnostic de trouble anxieux. Chez les filles, cette proportion monte à 29 % révèle une enquête sur la santé des jeunes réalisée par l'Institut de la statistique du Québec, ISQ. Ainsi, environ 6 % des élèves du secondaire ont pris des médicaments pour des symptômes d'anxiété ou de dépression, 8 % chez les filles, 3,8 % chez les garçons, et 16 % en ont pris pour des symptômes de TDA-TDAH, 12 % chez les filles, 19 % chez les garçons. L'estime de soi est aussi en chute libre. En 2010-2011, un jeune sur cinq disait avoir une estime de lui élevée. Cette proportion était de 12 % en 2022-2023, 7 % chez les filles, 16 % chez les garçons. Plus d'écran, moins de sommeil. L'intérêt pour le téléphone cellulaire ne fléchit pas. Que ce soit un jour d'école ou pas, le quart des élèves du secondaire passe habituellement 4 heures ou plus par jour devant un écran pour les communications et les loisirs. cette proportion est plus élevée chez les filles, 28%, que chez les garçons, 23%. Le sommeil s'en trouve en conséquence amputé. Un peu moins de la moitié, 48% des jeunes du secondaire, dorment moins que la durée recommandée pendant une semaine d'école. Ceux qui passent plus de temps sur un écran sont proportionnellement plus nombreux que ceux qui consacrent moins de temps à avoir un nombre d'heures de sommeil inférieur à celui recommandé, observe l'ISQ. Des relations amoureuses teintées de violence. Les jeunes du secondaire ont des relations sexuelles plus tardivement, montre aussi l'étude de l'ISQ. La proportion d'élèves qui ont eu une relation sexuelle consensuelle au moins une fois au cours de leur vie est passée de 37% en 2010-2011 à 30% en 2022-2023. 4 jeunes du secondaire sur 10 ont dit avoir eu une relation amoureuse dans l'année qui a précédé l'enquête de l'ISQ. Une proportion semblable, 37%, a dit avoir subi une forme de violence dans le cadre de cette relation, qu'elle soit physique, psychologique ou sexuelle. Un jeune sur 5 a admis avoir infligé une telle violence. L'étude de l'ISQ a été réalisée auprès de 70 825 élèves du secondaire de 483 écoles publiques ou privées de partout au Québec, francophones ou anglophones, des quatre coins du Québec. Dans un premier pan de l'étude diffusée en début de semaine, on apprenait que les jeunes font moins d'activités physiques qu'avant, mais qu'ils consomment aussi moins de cannabis, d'alcool, de cigarettes, de boissons sucrées et de malbouffe. C'était « La santé mentale des ados décline », un texte de Marie-Ève Maurras, paru le 27 novembre 2024 dans la presse.
Les travailleurs sociaux se sentent épuisés et dévalorisés, selon un rapport. Un texte d'Agathe Boucard, paru le 12 décembre 2024 dans Ici Nouvelle-Écosse. Le Centre canadien de politique alternative, CCPA, expose une litanie de plaintes émanant de travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse qui se disent épuisés par une charge de travail excessive, un manque chronique de personnel, des salaires bas et une formation insuffisante. Les auteurs du rapport intitulé « Contradictions en matière de soins » indiquent que les travailleurs sociaux de la protection de l'enfance font face à une crise aiguë de santé mentale. Les 15 personnes interrogées dans ce rapport accusent le département provincial des services communautaires de les avoir laissés dans un état de détresse. Le rapport souligne que les employés se sentent incapables d'accompagner correctement leur clientèle vulnérable, souvent des enfants ou des adolescents ayant subi des traumatismes. Compte tenu de la surcharge de travail, les travailleurs de la protection de l'enfance n'ont tout simplement pas le temps nécessaire pour une prise en charge et une intervention efficace, expliquent les chercheurs. En raison de la détresse morale et des troubles psychologiques et émotionnels décrits par les personnes interrogées, les auteurs du rapport réclament une couverture illimitée en matière de santé mentale et un soutien spécifique pour les travailleurs issus de minorités visibles. Le département de la protection de l'enfance de la Nouvelle-Écosse n'a pas répondu à une demande de commentaire à la presse canadienne. Des failles systémiques. L'Ordre des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse affirme que la situation s'aggrave ces dernières années. Son directeur général, Alex Stratford, a reconnu que la protection de l'enfance a toujours été un domaine professionnel exigeant, mais que la situation s'empire. C'est certain qu'au cours des 8 dernières années, la tâche est devenue de plus en plus ardue, a-t-il déclaré. Selon lui, si les familles ne reçoivent pas les soins dont elles ont besoin, ce n'est pas en raison de défaillances individuelles des travailleurs sociaux, mais bien en raison de failles systémiques qui persistent au département de la protection de l'enfance. Il a expliqué que le nombre de dossiers traités par les travailleurs sociaux ne reflète pas le nombre réel de personnes prises en charge. Un dossier représente une famille, et cette famille peut compter jusqu'à 12 personnes, précise Alex Stratford. Des pistes de solutions. Dans ce rapport de 90 pages, les chercheurs recommandent au gouvernement d'imposer un plafond à la charge de travail, de créer un environnement de travail plus favorable et d'offrir davantage de formation ou de mentorat. Ils demandent aussi une augmentation des salaires des travailleurs et une meilleure reconnaissance des valeurs et des normes professionnelles dans le domaine de la protection de l'enfance. Enfin, ils recommandent la création d'un organisme provincial de protection des enfants et des jeunes, ce qui existe déjà dans d'autres provinces. C'était « Les travailleurs sociaux se sentent épuisés et dévalorisés », selon un rapport. Un texte d'Agathe Boucard, paru le 12 décembre 2024 dans Ici Nouvelle-Écosse.
Plus de 4 millions de dollars pour le transport adapté à Sherbrooke. Un texte de Zoé Bellumeur, paru le 4 novembre 2024 dans Ici Estrie. La Société de transport de Sherbrooke, STS, reçoit une aide financière de 4,2 millions de dollars de Québec pour son transport adapté. Ce montant va financer les prestations de services de transport aux personnes handicapées. Il s'agit d'une aide financière de 416 363 $ de plus qu'en 2023. Les députés de Saint-François et de Richmond, Geneviève Hébert et André Bachand, étaient à Sherbrooke lundi pour en faire l'annonce. Ils étaient accompagnés du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, le député de Granby, François Bonnardel. Cette subvention contribuera à ce que les Sherbrookois et Sherbrookoises à mobilité réduite puissent se déplacer librement et participer pleinement à la vie collective, peu importe leurs limitations physiques, soutient Geneviève Hébert par voie de communiqué. Une offre de transport adapté de qualité est essentielle afin de favoriser l'inclusion et de briser l'isolement d'une partie de notre population, une citation de André Bachand, député de Richmond. Cette aide financière annuelle permet d'assurer le maintien du service de transport adapté offert, dont le nombre d'admis est en croissance, renchérit la présidente de la STS, Laure Le Tarte-Lavoie. C'était « Plus de 4 millions de dollars pour le transport adapté à Sherbrooke », un texte de Zoé Bellumeur paru le 4 novembre 2024 dans Ici Estrie.
Un aventurier va escalader le plus haut volcan de la Bolivie pour aider ceux qui accompagnent des gens en fin de vie. Un texte de Catherine Bouchard, paru le 15 janvier 2024 dans Le Journal de Montréal. Un passionné de défis et de randonnées en montagne se rendra en Bolivie au printemps prochain afin de réaliser l'ascension du Nevado Sajama, un stratovolcan de 6542 mètres d'altitude, pour amasser des fonds pour un organisme de Lévis qui fait de l'accompagnement palliatif. C'est à la suite d'une rencontre par hasard avec la présidente d'Albatros Lévis au printemps dernier que Marc Gaulin a découvert cet organisme qui a piqué son intérêt. Rapidement, il s'est inscrit à leur formation pour accompagner les personnes en fin de vie ainsi que leurs proches. Citation : C'est une formation tellement enrichissante. Je l'ai pris vraiment comme un développement personnel, lance-t-il. C'est comme lire 10 livres de croissance personnelle. Fin de citation. L'aventurier venait également de perdre 2 êtres chers dans les dernières années, soit sa chienne Moshi, qu'il a eue pendant près de 15 ans, et une tante dont il était très proche. Peu après la formation, c'était le tour de son oncle de décéder. Marc ne se sentait donc pas prêt à faire de l'accompagnement, devant vivre son propre deuil avant. « Mais je voulais contribuer », lance-t-il. Pas sa première expédition. ce passionné de montagne et d'expédition a alors décidé de joindre l'utile à l'agréable. Il est en terre inconnue, comme il a déjà réalisé plusieurs expéditions d'envergure pour différentes causes. Il a notamment atteint le camp de base de l'Everest, Kalapatar, en 2003, en compagnie de personnes en fauteuil roulant. Il s'est aventuré dans les volcans de l'Équateur au profit de le camp et a gravi le Kilimandjaro en 2005. Citation « Mais je n'avais jamais passé la barre des 6000 mètres d'altitude. Je voulais le faire. » Fin de citation, raconte-t-il. Il a donc réfléchi à une expédition où il pourrait réaliser ce défi tout en amassant des fonds pour Albatros Levy. Citation « J'ai choisi la plus haute montagne de la Bolivie, dans la cordillère des Andes. Le plus haut volcan, le Nevado Sajama, de 6542 mètres. J'ai donc décidé d'amasser 6542 $, ce qui représente symboliquement 1 $ par mètre. » Fin de citation, observe-t-il. Une collecte qui va bon train. L'aventurier a définitivement le vent dans les voiles. Même s'il ne s'envole que le 11 mai prochain, pour 3 semaines, il a déjà amassé plus de 5000 $. Il finance personnellement le voyage au complet et les dons sont entièrement remis à Albatros Levy. Citation « Je suis choyé d'être en santé, d'avoir le luxe de voyager, la possibilité de m'épanouir, vivre mes rêves et des aventures. Si j'ai cette chance-là, si je peux, avec mon projet, contribuer à une cause, pour moi, c'est doublement enrichissant. » Fin de citation, termine-t-il. Alors que les demandes d'accompagnement ont augmenté de 50% dans la dernière année chez Albatros Levy, cette initiative est accueillie à bras ouverts. Citation « C'est tout nouveau que nous ayons des subventions gouvernementales. Donc c'est certain qu'une levée de fonds d'un montant comme celui qu'on prévoit amasser, pour nous, c'est significatif. » Fin de citation, souligne Sarah Gauvin, directrice générale d'Albatros Levy. C'était « Un aventurier va escalader le plus haut volcan de la Bolivie pour aider ceux qui accompagnent des gens en fin de vie. » Un texte de Catherine Bouchard, paru le 15 janvier 2024 dans Le Journal de Montréal.
J'ai co-signé le rapport parent. Voici comment le parachever. Un texte de Guy Rocher, paru le 11 novembre 2024 dans La Presse. J'appuie le plan pour un réseau scolaire commun mis de l'avant par École Ensemble. Il s'agit de la proposition la plus cohérente pour parachever le rapport parent et enfin doter le Québec d'un système d'éducation juste. Nous, les membres de la commission parent, avons érigé notre rapport sur un pilier central, le droit de chacun à la meilleure éducation possible. Cet objectif, en apparence simple, recouvre en fait une immense ambition devant interpeller toute la société. Ce droit devait être une boussole pour un Québec en plein développement. Malheureusement, la décision du gouvernement de l'époque d'octroyer aux écoles privées des fonds publics tout en maintenant leur privilège de choisir leurs élèves est venue mettre à mal nos idéaux. En laissant aux écoles privées subventionnées le droit de trier les enfants en fonction de leurs résultats et du revenu de leurs parents, l'Union nationale a précipité le Québec dans le cercle vicieux de la concurrence scolaire et de la fracturation sociale. Notre rapport avait pourtant été clair. Permettre aux écoles privées subventionnées de facturer des droits de scolarité et de choisir leurs élèves équivaudrait pour l'État à se concurrencer lui-même avec ses propres fonds et à dévaloriser l'enseignement public. Un gâchis humain. L'enseignement public en question a voulu répliquer avec ses propres écoles et programmes sélectifs et n'a fait qu'aggraver le problème. Je l'ai déjà affirmé dans ces pages. Cette école à 3 vitesses qui divise le Québec est un gâchis humain. Ce marché scolaire que les élites ont laissé se développer en feignant de ne pas en voir les conséquences est une tache sur notre parcours national. Concentrer les enfants vulnérables dans la 3e vitesse les écoles publiques ordinaires, est une politique publique insensée autant qu'une injustice intolérable. Un cercle vicieux qui se renforce depuis un demi-siècle est difficile à briser. Heureusement, le plan pour un réseau scolaire commun nous indique comment y parvenir. S'agissant des écoles privées actuelles, le plan propose de leur offrir le choix entre deux statuts, conventionné ou non. L'école privée conventionnée sera financée comme une école publique et sera ainsi gratuite. Écoles publiques et privées conventionnées formeront un réseau scolaire commun. Les élèves seront associés à leur école de proximité, publique ou privée conventionnée, en vertu d'une carte scolaire équitablement conçue. L'école privée non conventionnée, elle, n'aura pas de financement public et pourra continuer à sélectionner ses élèves. Par exemple, une école privée qui souhaite n'accueillir que des élèves d'une confession donnée sera non conventionnée. En Ontario, où l'école privée n'est pas financée par les contribuables, environ 6 % des élèves la fréquentent. Cette proportion devrait être similaire au Québec, si bien que 94 % des élèves fréquenteront l'école commune. Dans l'intérêt public, on demandera pourquoi ne pas simplement abolir les écoles privées. En fait, les écoles privées ont un droit reconnu d'exister, mais pas celui d'être financées par les contribuables. C'est pourquoi nous avions recommandé une solution à deux statuts dans le rapport Parent afin de distinguer les écoles privées d'intérêt public de celles qui ne le sont pas. Le rapport recommandait ainsi d'instituer deux types d'écoles privées, les établissements privés et les établissements semi-publics. Le vocabulaire du réseau commun proposé par École Ensemble diffère, mais le principe est le même. S'il y a financement public, ce doit être dans l'intérêt public. Le plan pour un réseau commun détaille plusieurs autres questions: impact budgétaire, offre de projets particuliers à tous sans sélection, délimitation des cartes scolaires. Il s'agit d'une lecture obligatoire pour quiconque ayant l'éducation à cœur. C'est à une nouvelle génération d'élus qu'incombe la tâche ardue et passionnante d'arrimer nos institutions à nos valeurs fondamentales. Le droit de chacun à la meilleure éducation possible, cela commence par nous donner une école commune. C'était « J'ai co-signé le rapport Parent, voici comment le parachever », un texte de Guy Rocher, paru le 11 novembre 2024 dans la presse.